Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, bonjour, messieurs, mesdames. Alors, nous en étions donc à la fin de la dernière leçon. Nous en étions passés à l'examen de quelques problèmes que je qualifiais de marginaux, mais que l'on pose d'ordinaire pour les Fardachis. Il nous en restait un à traiter. Comment faut-il envisager le fait que les dieux aient une Fardachie? Il y a même un passage dans l'Avesta, pas dans l'IH de 13, qui procède à une saisissante construction en abîme en attribuant des Fardachis aux Fardachis. Ce qui est certainement, certaine mesure, une certaine fantaisie. Mais un certain nombre de divinités ont leurs Fardachis. Elles sont nommément citées en début de la partie litanique. C'est pour cela que, d'une certaine façon, le problème des Fardachis divines et le problème des litanies humaines qui procèdent ensuite après la mention des dieux sont d'une certaine manière liés. Et c'est à cet examen-là que je voudrais consacrer la leçon d'aujourd'hui. Les Fardachis des dieux, c'est une liste divine qui entame la partie de l'énumération des noms divins. Excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes papiers. Donc, les divinités qui ont une Fardachie sont en premier lieu, bien sûr, Ahura Mazda. Il est en début de liste, c'est la fin du quart des 22 qui est directement donc annexé à la partie hymnique. Autre remarque tout de même, non seulement Ahura Mazda a une Fardachie, mais le passage est relativement important parce qu'il lui attribue encore d'autres caractéristiques qui composent la personnalité d'un homme, voire d'un dieu. Il a un Urvan, il a donc une âme-moi, qui est en principe mortelle. Mais le principe d'Urvan, une fois qu'il est attribué à Ahura Mazda, il est d'emblée transformé en quelque chose d'autre. Car son Urvan, son âme-moi, son âme-souffle, c'est le mantra Spenta, donc l'Avesta ancien. L'Avesta ancien, nous dit le texte. Autre chose encore, il a, ça paraît plus surprenant, mais tout de même, c'est très explicable, il a un corps. La notion de corps dans les textes indo-iraniens est parfois assez délicate à manier, car il y a plusieurs corps, il y a plusieurs termes pour désigner le corps, et nous ne sommes pas encore parfaitement arrivés à déterminer les nuances de chacun de ces mots, ce qui différencie chacun de ces mots. Les deux termes les plus utilisés, les plus spécifiques, naturellement, on peut toujours employer le mot « os ». L'os, c'est le corps. Hein, c'est le corps. Mais la « tanou », c'est un mot féminin, la « tanou », et la « kerp », c'est un autre mot féminin, ce qui, le terme est sanskrit, hein, c'est le même mot, ils sont restés identiques. Ici, le terme sanskrit serait « kerp ». Or, ce qui différencie ces deux corps, nous ne le savons pas bien. On a parfois l'impression, mais je reste dans les généralités, que la tanou, c'est le corps en tant qu'enveloppe qui contient quelque chose, hein, les autres organes, dont d'ailleurs le IH de 13, dans trois de ses strophes, fait l'énumération, les viscères, les muscles, etc. Le kerp, c'est une notion beaucoup plus abstraite, c'est une forme visible. Or, c'est une kerp qui est attribuée à Ahura Mazda. Ahura Mazda a une kerp. Et cette forme qu'il prend, ce sont, dit le texte, les Ameshaspenta. Les Ameshaspenta. Ce qui est d'ailleurs aussi un peu étonnant, parce que les Ameshaspenta sont eux aussi des divinités invisibles et immatérielles, en principe. Donc, il y a quelques paradoxes à leur attribuer à eux aussi une forme visible. Pourtant, les textes vieilles avestiques, eux, le Yasna Haptankaiti, avaient été très clairs à cet égard. Ahura Mazda a bel et bien une kerp. Il a donc bien une apparence visible. Or, nous disait le texte, cette forme visible, c'est la plus haute des hauteurs. Je cite le texte, hein, littéralement, la plus haute des hauteurs. Et qu'est-ce que la plus haute des hauteurs? C'est la lumière. C'est la lumière qui s'étend depuis le soleil jusqu'à celui qui voit le soleil d'en bas. Donc, tout le grand espace rempli de la lumière du soleil, c'est la forme lumineuse d'Ahura Mazda. Alors, maintenant, ce que ce témoignage aptahatique, ce témoignage extrêmement ancien, nous permet de comprendre cette attribution d'une kirpe un peu différente, un peu plus mystique, en quelque sorte, hein, à Ahura Mazda dans le Yasht 13. Oui, il y a une petite notation étrange, totalement détachée du contexte, qui apparaît intruse, hein, et pourtant, qui, me semble-t-il, est assez significative. L'auteur de la strophe en question, ou l'arrangeur, celui qui a combiné les différents ingrédients dont le Yasht 13 est composé, a procédé, semble-t-il, à une petite annotation. Après avoir dit que la forme que prenait Ahura Mazda, qu'elle était très belle, très ancienne aussi, elle est belle et ancienne, dit le texte, c'est celle des Amushaspanta. Et puis, une brève formule en trois mots, nous sacrifions au soleil. Nous sacrifions au soleil. Donc, après l'attribution de la kirp, il y a comme un renvoi, n'est-ce pas, au fond, à la doctrine aptahatique qui fait de la lumière du soleil la forme visible de Ahura Mazda. Voici le commentaire, je croyais, ça nous éloigne un peu des Fravashi, mais me semble-t-il, il était intéressant de le signaler. Parce que ce passage comporte ceci entre autres, hein, mais nous allons encore voir d'autres éléments. Il comporte des petits éléments qui nous paraissent curieux, bizarres, difficiles à interpréter, et qui pourtant s'expliquent, n'est-ce pas, lorsqu'on les replace dans le contexte d'autres enseignements de l'Avesta. Alors, les Amushaspanta ont leur Fravashi, bien sûr, ils viennent après Ahura Mazda et avant d'autres dieux du Panthéon. Puis, la liste des dieux, des dieux qui sont pourvus d'une Fravashi. Le feu, Atar, le feu rituel, une Fravashi. L'élément rituel, ça se comprend assez bien. Et ensuite, avec le glissement usuel dans le contexte liturgique, le dieu Saucha, donc l'allégorie du fait d'entendre les chants rituels, l'allégorie de l'écoute attentive des textes et ses acolytes usuels, le dieu Rachnou. Nous connaissons pas bien la signification de son nom. Mitra, qui ne vient qu'en troisième place. Ça, c'est l'inversion qui se produit lorsqu'on est en contexte liturgique entre Saucha et Mitra. Mais il y a une divinité normalement fort discrète qui est introduite entre Saucha et Rachnou, c'est le dieu Nayurio Sangha, qui n'a aucun texte spécifique dans l'Avesta, qui est évoqué, dont le nom est mentionné assez fréquemment dans les environs, aux alentours de Atar du feu ou de Saucha. Et c'est un nom qui signifie, comprenez comme vous le pouvez, moi je ne sais pas très bien, certains, semble-t-il, ont certaines idées, mais je ne comprends pas bien. C'est le dieu de la qualification virile, c'est l'allégorie de la qualification virile, c'est-à-dire énoncer la qualité virile. Ce que ça recouvre en pratique, j'avoue mon ignorance. Enfin, intercalation. Le mantra spenta, l'Avesta ancien, c'est le nom que l'Avesta donne à son corpus ancien, a une Fravashi. Et puis, après, c'est cette sorte de tampon que constitue l'évocation de l'Avesta ancien, les diverses créations. Dans l'ordre usuel du Yasht 13, le ciel, l'eau, illogiquement d'une certaine manière mentionné avant la terre, mais ça nous l'avons déjà commenté, ça c'est probablement l'influence de la figure d'Anahita qui est médiane entre le ciel et la terre, enfin la vache, et puis référé par le nom de Gaïa, la vie, l'homme, et effectivement, c'est sur le nom du premier homme, Gaïa Martan, que la litanie des noms humains va commencer. Voilà donc les éléments non humains de la liste litanique. Un petit commentaire. On ne peut pas s'étonner que les diverses créations aient une Fravashi. Les créations archétypiques, hein, les grandes articulations de la cosmogonie, le ciel, l'eau, la terre, la vache, l'homme, Ils ont leur fravashi. Cela est dit très explicitement, souvenez-vous du cours d'il y a 3 ans, dans le texte dit Fravarané, où celui qui prononce le Fravarané, nous sommes dans le contexte des Fravashi, se déclare Masdayasna, c'est-à-dire quelqu'un qui donne son sacrifice à Ahura Mazda en fonction d'un choix. Le terme est Varana, Varana, en fonction d'un choix, c'est le verbe var, choisir, qui est aussi, dit le texte, le Fravarané, le choix du ciel, de la terre, de l'eau, des vaches, et d'un certain nombre d'hommes aux noms célèbres, qui sont évidemment choisis dans la liste qui va suivre. Donc les créations ont une fravashi, ce qui n'est pas aberrant. L'Avesta le dit par ailleurs. Alors, autre chose, c'est un petit excursus, mais il peut paraître normal que les dieux aient une fravashi puisque les dieux sacrifient. Comment les dieux sacrifient-ils ? Je me permets donc une petite digression à cet égard, mais vous verrez que le fravarané et les fravashi n'en sont pas absentes, ça nous permet de bien comprendre les processus en cours, c'est un passage qui n'a pas attiré beaucoup l'attention. C'est un passage du Mir Yasht, du Yasht Amitra, le Yasht 10, Kardé 33, strophe 88 à 94. Ce passage-là décrit le sacrifice primordial qu'Ahura Mazda lui-même, le grand dieu, a organisé en faveur de Mitra. Il s'agit en quelque sorte, là le texte le dit, se clôture sur cette notation, c'est un sacrifice d'investiture. Il s'agit de pourvoir Mitra de son pouvoir, de ses fonctions, c'est-à-dire la protection contre les démons des lumières du jour, des lumières de l'éther. Afin d'instituer Mitra comme le grand gardien de la lumière, Ahura Mazda organise un sacrifice en bonne et due forme en sa faveur. C'est un texte qui est parfois obscur, parce qu'il contient beaucoup d'anomalies grammaticales apparentes. Mais beaucoup de détails de la structure de la cérémonie sacrificielle décrite apparaissent, elles, clairement. Donc, je ne me préoccuperai pas d'une exégèse fine, ce n'est pas notre sujet. Je releverai seulement les grandes articulations sacrificielles que comporte le texte. Bon, d'abord, c'est la première chose. Le principal rôle dans la conduite des opérations sacrificielles est Hauma, le dieu plante, le dieu que l'on pressure pendant le sacrifice. C'est lui qui assumera la fonction de Zautar, donc le chef du collège sacrificiel. Et je vous rappelle que le Zautar, c'est une fonction sacrificielle, ce n'est pas une fonction sociale. C'est le prêtre qui est choisi pour diriger la cérémonie, pour jouer le rôle principal. Et ce nom signifie littéralement celui qui fait les puisées pour les libations. Celui qui fait les puisées pour les libations, le Hautar indien. Et c'est bien sûr, comme Mary Boyce l'a décrit, on peut définir Hauma dans ce contexte-ci comme le prêtre du sacrifice, mais avec les nuances, j'insiste sur les nuances que je viens d'y apporter. Or, le fait que la charge de Zautar soit donnée à Hauma crée une situation très particulière. Imaginons-nous ce que représente le sacrifice, puisque dans la cérémonie du Yasna, le prêtre principal, le Zautar, c'est lui qui pressure le Hauma, donc qui le tue, comme dit le texte lui-même, puis qui le boit, afin de le ressuscité en prononçant les mots « Je te donne ce corps à moi, ce corps de moi », afin de donner au Hauma, qui n'a plus de corps, puisqu'il a été pressuré, qu'il est devenu colostrum, qu'il est devenu jus, lui donner un nouveau corps. Or, vous voyez ici que Hauma est dans un tel contexte, il est lui-même le sujet, en même temps le sujet et l'objet des opérations sacrificielles. Il se tue lui-même en se pressurant, il s'immole en tant que prêtre symboliquement en se buvant lui-même et il se ressuscite en quelque sorte lui-même alors que c'est un mort qui ressuscite un mort. Il y a une situation tout à fait étonnante que l'on peut comprendre de deux manières. d'une manière avec une certaine naïveté rationnelle, d'une certaine façon, en considérant qu'il faut faire la distinction entre le hauma en tant que dieu et le hauma en tant que plante. Mais il y a aussi peut-être ici plus largement une merveilleuse absurdité, hein, une absurdité merveilleuse qui fait que, qui caractérise au fond le sacrifice divin et archétypique que Ahura Mazda offre à Mitra. Et récemment, Éric Pirard a donné une très belle interprétation de la strophe 90, n'est-ce pas, en montrant que, en donnant une interprétation grammaticale qui restaure contre Gershevitch, hein, la vieille interprétation de Bartholomé et de Boyce. Il montre que le hauma pressure le hauma en manœuvrant un mortier, une pierre à pressurer, qui est qualifiée étonnamment de décorée d'étoiles, étonnamment d'elle est décorée d'étoiles, et elle est fabriquée en matière céleste. Donc une pierre à pressurer merveilleuse. Et la traduction est donc la suivante. Le hauma a été le premier zaoutar à préparer le hauma avec une pierre à pressurer couverte d'étoiles et constituée de matière céleste sur la montagne Hara, la plus haute montagne de la Terre. Donc, ce qui signifierait, selon Pirard, et je crois qu'il a raison, que dans ce grand pressurage cosmique, hein, la pierre à presser inférieure est la montagne Hara, elle est la Terre, et la pierre à pressurer supérieure est le ciel. Donc nous avons quelque chose de tout à fait, une image tout à fait élargie aux dimensions divines et archétypiques du sacrifice particulier qui est rendu ici par le dieu Hauma. Mais une autre particularité de ce sacrifice, c'est la part que prennent dans les opérations les Amushaspenta, dont le nom est explicitement énuméré en litanie, dans la strophe 92. Et on doit noter que chacun d'entre eux prend part au processus sacrificiel. Dans la strophe 90, ils commencent par exprimer leur admiration pour le travail du zaoutar, pour le travail du hauma. Ce qui est un petit détail que l'on trouve aussi, dont on trouve l'évocation ailleurs dans la Vesta. Et le verbe qui signifie exprimer son admiration, c'est le verbe beretch, dont la situation à l'intérieur de la dialectologie indo-iranienne, d'ailleurs, n'est pas claire, car il y a des ambiguïtés phonétiques. Mais « birch » signifie « exprimer son admiration ». Or, on ne relevons que Hauma, qui est Zaoutar, Ahura Mazda, et les six entités, cela fait huit. Donc, le groupe divin qui offre le sacrifice ici est composé de huit personnes, très exactement comme le collège des officiants du Yasna Avestique. Il y a huit prêtres dirigés par le Zaoutar. Ici, il y a huit dieux dirigés par le Zaoutar Hauma. On peut donc considérer comme sûr que les Ahura Mazda et les Amushaspenta composent le collège sacrificiel de la cérémonie qui est offerte ici. Et ceci nous suggère une petite idée intéressante, ce n'est pas la conclusion centrale que je tirerai de ce texte, il y en a une plus grave, comme nous allons voir, mais cela suggère que le groupe des entités auxquelles Hauma s'est joint a certainement fourni le modèle pour le nombre des prêtres officiants à l'époque avestique récente. Pas l'inverse, hein. Je ne crois pas que la sélection, car ils ont été sélectionnés, et tardivement, comme nous l'avons vu l'an dernier, que la sélection des Amushaspenta ne s'est pas faite en fonction du nombre du collège des officiants. Nous avons vu, au contraire, que tout semble indiquer que la sélection de huit divinités pour composer ce corps, de six entités pour composer le corps des Amushaspenta avec Ahura Mazda, résulte d'une sorte de spéculation sur le chapitre du Yasna Haptankaiti qui mentionne le titre d'Amushaspenta. Et effectivement, dans c'est le Yasna 37, troisième chapitre du Yasna Haptankaiti, lorsque le sacrifiant donne son intention de sacrifier au dieu, aux Amechaspenta, c'est le nom qu'il donne, semble-t-il, au dieu, n'est-ce pas ? Ensuite, suit une liste de 6 entités divines, et je crois que c'est une spéculation sur ce texte qui a produit cette sorte de distillation du panthéon en Amechaspenta. Petite question aussi qui est assez claire, ben c'est qu'il semble bien que Ahura Mazda est à la fois le sacrifiant, c'est-à-dire celui qui commandite le sacrifice, il l'organise, hein. C'est lui qui donne son intention d'offrir le sacrifice à Mazda, et puis il entre dans le collège, il entre dans le collège des officiants, dans ceux qui portent, qui posent les actes techniques du sacrifice. Donc il y a une ambivalence de son rôle, il est à la fois commanditaire et officiant. Ce qui ne va pas de soi dans le cadre indo-iranien. Mais le fait qu'il est commanditaire aussi vient. Vous savez, il faut toujours faire attention à ces petits mots, même s'ils sont très fréquents. Mais lorsqu'on dit qu'il organise ce sacrifice, on dit qu'il est à Chavan. Or, je vous le rappelle, le nar à Chavan, c'est le nom officiel d'un commanditaire du sacrifice dans l'Avesta récent. Donc, cette petite notation qui n'a l'air de rien, qui est si fréquente à Chava, renvoie très certainement, économiquement et discrètement, au rôle d'Ahura Mazda comme commanditaire de la cérémonie. Bon, alors, il est intéressant en présent, c'est peut-être à ça que je veux en venir principalement, d'observer comment le processus rituel se développe. Naturellement, nous n'avons pas une description complète, ni non plus très précise, de la cérémonie, mais toutefois, on voit apparaître certains éléments du processus. Dans la strophe 91, les trois dernières phrases, qui s'organisent un peu à la manière d'un ablatif absolu en latin, se réfèrent à trois périodes du processus rituel. On nous dit exactement, lorsque le barsman, c'est-à-dire le faisceau de baguette hein, que le prêtre tient en main, a été déplié, a été déployé, lorsque le hauma a été préparé. Et lorsque l'Ahunavairia, la strophe d'Inkipit du corpus ancien, a été récitée. Voilà trois temps et trois opérations rituelles qui correspondent clairement avec ce que nous décrivent les textes de la première partie de la liturgie du Yasna, hein, c'est-à-dire le Barsom Yasht, c'est l'Yasht 2, hein, c'est une litanie introductive qui consiste à introduire dans l'espace rituel le faisceau de baguette, le barsman. Ce n'est pas une litière, hein, ça se tient en main et ça se déplie. Le barsman, ce qu'on appelle aujourd'hui le barsom. Donc, le homestone, qui est le texte censé décrire la préparation du hauma et qui occupe les chapitres 9 à 11 partim. Enfin, l'introduction, la formule introductive du corpus vieil avestique lui-même, le Yasna 27-13, l'Ahunavairia. En plus, la strophe suivante, 92, nous dit que chaque Amechaspenta, en tant que prêtre officiant, prononce la formule Fravarane. Il prononce la formule Fravarane en connexion avec la Daina. Là, c'est frustrant. La connexion avec la Daina, c'est un problème frustrant, parce que l'exacte connexion n'est pas claire du tout. Et on n'arrive pas à introduire un sens qui résoudrait la difficulté à l'intérieur du texte tel qu'il a été transmis, parce que le mot est une fois à l'instrumental et une autre fois au datif. Donc là, il y a une perturbation. Mais du point de vue de la structure, il reste clair que cela correspond exactement au texte du Yasna 12 lui-même, du texte Fravarané, qui commence avec la formule Fravarané, je choisis, et qui se termine avec l'hommage, l'éloge rendu à la Daina. Dainam astouye, je fais l'éloge, je salue la Daina. Donc, ce cardé, cette section du Yasht Amitra, donne une image vraiment très fidèle de la première partie de la cérémonie du Yasna, depuis le début jusqu'à l'ouverture de la récitation des textes anciens. Ce sont les litanies initiales avec le Barsom Yasht. C'est un texte consacré au Hauma. C'est la déclaration Fravarané et ensuite la première strophe des Gatha. Naturellement, il est impossible de déterminer si le silence sur la seconde partie du Yasna est significative ou ne l'est pas. Mais attention, je vous signalerai que le Hadoknas, ce petit fragment avestique que j'ai souvent mentionné parce qu'il est très important, c'est lui qui nous rencontre la rencontre, c'est qui nous rapporte la rencontre des deux âmes après la mort, hein, contient un passage un peu surprenant, un peu étrange, où on se demande pourquoi il est introduit là. Mais dans les déclarations de l'âme d'Aina, donc de l'âme féminine à l'âme masculine, n'est-ce pas, elle chante ses mérites, elle fait cet éloge, elle répond à l'éloge qui est celui du rituel, hein, de l'astouillé aussi. Et elle dit, voilà, tu étais comme ceci, tu étais comme ça, c'est très bien. Mais un de ces éloges est le suivant. Lorsque tu voyais quelqu'un faire ceci ou cela avec le Hauma, je ne saurais malheureusement pas vous dire ce que c'est que faire ceci ou cela. Il y a là des verbes qui sont apparemment tout à fait isolés, qu'on ne voit pas, qu'on ne trouve pas ailleurs dans l'Avesta. Mais en tout cas, il s'agit d'une condamnation ferme portée sur un certain usage qui est fait du Hauma. Eh bien, toi, quand tu voyais faire cela, dit l'âme, bien, tu te mettais à faire des libations aux eaux. C'est l'Abzor, Yasna 63-68. Donc nous sommes dans l'Yasna post-gathique. Tu faisais l'éloge du feu, Atash Nia Yishn, Yasna 62. Et tu propitiais les prêtres experts, Dharma Afriti, Yasna 60. Donc ici, nous avons, on peut dire que nous avons un témoignage combiné. Témoignage combiné du Miryasht et du Hadoknas qui nous dépeint, si nous les combinons, un Yasna presque complet. Hein, ceci est une chose assez importante. N'est-ce pas, ceci, il faut voir donc que le sacrifice du Miryasht ne fait certainement pas la démonstration que le corpus du Yasna, tel que nous le connaissons, était déjà rassemblé, avait déjà été colligé, comme une récitation rituelle à l'époque de la rédaction du Miryasht. Mais ce texte est trop lacunaire pour dire cela, et je ne veux pas en tirer cette conclusion. Mais nous avons tout de même le témoignage que le sacrifice de Stan, le sacrifice dont il est question dans le Miryasht, était basé sur les mêmes niveaux sacrificiels, dans le même ordre de succession. C'est pourquoi ce cardé, avec ce quart-ci, nous voyons que le rituel récitatif du Hauma, comme nous le connaissons, n'était peut-être pas encore formé, n'avait peut-être pas encore été organisé, mais que la philosophie générale qui structurera plus tard ce livre était acquise. Alors, je pourrais dire, pour être prudent, que texte comme ceci nous montre que la voie était ouverte à la compilation du Yasna. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui de plus en plus convaincu que l'organisation textuelle du Yasna est une vieille opération. C'est une vieille opération et probablement une opération qui a été menée à l'époque des rois achéménides. C'est certainement peut-être très tôt lors du règne de Darius. Alors, voilà, je ne voulais pas, n'est-ce pas, laisser passer ceci. Nous possédons un indice qui nous permet une datation relative, hein, une chronologie relative de la compilation des anthologies littéraires qui composent notre Avesta. Nous avons ces détails, mais en même temps aussi, ceci nous explique ce qui peut paraître surprenant, en fait, c'est que les dieux, eux aussi, ont une fravachie, mais oui, puisque les dieux sacrifient. Puisqu'ils doivent dire à un moment donné, dans leurs opérations cosmogoniques, Fravarané, ils ont donc naturellement une part de leur univers mental et la faculté de poser un choix rituel, exactement comme les hommes. Alors, nous allons en venir tout de même aux hommes. Il y a quelques petites choses à dire d'eux. C'est évidemment un passage qui n'est pas réjouissant à lire. Hein. C'est une litanie de noms propres. Une litanie de noms propres. Nous sacrifions à la fravachie d'un tel, qui est à Chavan. Et ainsi, c'est simplement une simple mention comme celle-là. Alors, je voudrais tout de même, nous pouvons tout de même apprendre des petites choses ici. Tout d'abord, on va relever la diversité des noms. C'est peut-être la seule chose qui nous donne un peu de plaisir esthétique, n'est-ce pas, dans la lecture de ce passage, parce que ces noms sont parfois amusants. Il y a des sobriquets de dérision. Il y a des noms qui comportent des évocations sexuelles extrêmement crues. Il y a, par contre, des noms de spéculation théologique, dont la quintessence, c'est le nom de citation, c'est-à-dire de termes sortis du contexte de la Vesta et qui composent un nom propre. Tout à fait indépendamment des relations syntaxiques qui peuvent unir ces deux mots. Donc, nous avons tout, en quelque sorte, et c'est un petit jeu amusant de décrypter la manière dont ces noms. Si vous voulez que je vous donne un petit exemple amusant, c'est le cas de deux frères. L'un s'appelle Amrou. Et l'autre s'appelle Chamrou. On ne peut pas expliquer, ces noms sont faits bien sûr pour assonner, hein, ça va de soi par la fin. Mais on ne peut pas expliquer la variation initiale dans un contexte linguistique indo-iranien. Alors, ceci peut être traduit simplement, je pense, une petite fantaisie, peut-être du père, peut-être de l'auteur. C'est comme si chez nous, on appelait quelqu'un Pierre, le premier fils, et par référence à ce premier fils, on appelle le second et Pierre. Petite stratégie de baptême, en quelque sorte, dans la Vesta. Voilà. Ces petites choses comme ça se relèvent. Ils sont amusantes à relever. Alors, je voudrais aussi indiquer que nous ne pouvons pas faire avec ces listes de l'histoire. La première raison est technique. Nous n'avons pas de généalogie stricte. Parfois, ces noms ne comportent pas un patronyme. Parfois, ils sont marqués d'un patronyme. Mais le nom du père qui a servi à composer le patronyme ne figure pas dans la liste. C'est bien que nous ne voyons pas comment ces noms se structurent l'un par rapport à l'autre nécessairement. À moins que nous ayons des indications ailleurs. Mais justement, les indications que nous trouvons par ailleurs, nous devons nous en méfier par ailleurs. La première raison de s'en méfier, c'est que dans toute la tradition iranienne, depuis la Vesta, interne à la Vesta lui-même parfois, jusqu'au Shahnameh, n'est-ce pas, il y a des variations sur les rapports familiaux entre les diverses personnes qui sont citées. Le cas le plus frappant, c'est une certaine Freuni, c'est une femme qui s'appelle Freuni, et qui, selon les textes moyens perses qui nous parlent d'elle, elle est la grand-mère ou la fille de Zarathoustra. Selon Bundahish, elle est la grand-mère, selon Dinkart, elle est sa fille. Donc, devons nous méfier de notre, je vais dire, ce serait d'ailleurs un travail, peut-être une fois, que d'essayer d'établir toute la variation dans l'attribution des rapports familiaux que l'on trouve dans la tradition iranienne. Autre chose aussi, il semble que, ça perturbe parfois notre compréhension, les noms des gens du cercle gathique, c'est-à-dire les noms des gens qui sont mentionnés dans les gathas avec Zarathoustra, ont été en vogue à une certaine époque, et on a tendu à donner ce nom à des gens qui ne sont pas eux, bien entendu, n'est-ce pas, mais dans les générations ultérieures. Ainsi, nous avons des exemples très, très clairs dans nos listes. Mais parfois, nous hésitons et nous nous demandons si ce n'est pas le personnage des gathas lui-même qui est mentionné, plutôt que quelqu'un qui a été nommé d'après lui. Alors, il y a des noms que nous ne connaissons pas par ailleurs, qui n'apparaissent nulle part ailleurs, des noms inconnus. Alors, on peut faire ici deux hypothèses. Ou bien ce sont des noms de mythes. Nous avons ici affaire à des allusions extrêmement décharnées, à de petits mythes. C'est ce que pense Cherveux. Mais Darmestetter avait fait observer, je crois justement, que peut-être aussi nous avons ici des bribes d'histoire. Nous avons des bribes d'histoire parce que ces listes litaniques, lorsque l'on récite ce texte, le Yashtetres, en l'honneur des âmes des ancêtres, On introduit parfois les noms de ses ancêtres dans les listes du IH de 13. Alors peut-être qu'à date ancienne, ces noms ont subsisté d'une telle pratique. J'ai vu, par exemple, lors d'une cérémonie qui était rendue par la communauté parsi de Houston, aux États-Unis, que pour faire plaisir aux quelques iranologues qui se trouvaient dans l'assistance, le prêtre a introduit dans la liste des Fravashi le nom de quelques-uns de nos illustres prédécesseurs dans la philologie avestique. Ces pratiques ne choquent pas, elles sont courantes, n'est-ce pas ? On rend hommage à ses ancêtres en insérant leur nom ponctuellement dans les listes. Donc peut-être avons-nous des bribes d'histoire. C'est une hypothèse que l'on ne peut pas passer sous silence. Alors je voudrais commenter maintenant certaines questions. Comment ces listes sont agencées ? Je ne vais pas les dénombrer. Je ne vais pas les dénombrer, en tout cas, pour en faire le dénombrement total, parce que parfois, la jonction n'est pas facile à découvrir. On voit que le premier homme, Gaïa Martan, est introduit immédiatement après les créations, où il figure en tant que Gaïa, en tant que vie. Donc la démarcation n'est pas facile. Mais on peut considérer qu'il y a, dès le départ, trois listes de noms fameux. La première, ce sont les personnages, c'est avec des extensions, qui accompagnent Zarathoustra dans les Gathas. Donc c'est la liste, du cercle gathique, avec des extensions, nous allons y venir. La deuxième liste humaine, ce sont ces héros propres au IH de 13, les fils du sixième dont nous avons parlé. C'est donc le clan des fils du sixième, deuxième liste humaine. Troisième liste humaine, c'est une lignée apparentée à la succession Zarathoustra-Vishtaspa dans les Gathas. Ce sont les fils de Hugu, les fils de Hugu. Or, ces trois listes convergent en quelque sorte, car chacune se termine par le personnage du Saushyant final, Asdvat-Urta. Asdvat-Urta, donc ce fils posthume de Zarathoustra, qui, en tant que personnage vivant, pas après sa mort, il sera vivant lorsqu'il procédera à cette opération, Asdvat-Urta, celui qui introduit le Urta, donc le Hacha, qui ici n'a pas subi le traitement usuel, c'est assez étrange, mais c'est comme cela, celui qui introduit le Hacha dans le monde matériel, donc dans le monde de l'os, littéralement. Ce qui est certainement une manière un peu sophistiquée. C'est une citation gathique, d'ailleurs. C'est un nom de citation, mais c'est aussi, on veut exprimer de façon un peu sophistiquée l'idée, au fond, de la résurrection des corps. N'est-ce pas ? Cet homme vivant, qui est lui-même osseux, Asdvant, viendra introduire définitivement l'agencement parfait dans le monde osseux, c'est-à-dire il en bannira la mort. Les trois listes convergent vers lui. Elles le mentionnent en tant que dernier personnage. Mais il est le résultat de l'histoire. Alors, comment les choses se développent-elles ? Il y a quelques petites remarques intéressantes que nous devons envisager. La première liste humaine, les héros qui gravitent autour de Zarathoustra. Le premier est le tout premier homme, Gaïa Martan. C'est une particularité du IH de 13 que d'accorder une certaine importance à ce tout premier homme. Je vous rappelle, c'est le tout premier, en ce sens, c'est un rejeton des dieux. N'est-ce pas ? Il est le dieu, le fils des dieux, qui est victime de l'agression du mauvais esprit dans le monde. Car il sera mortel. Il sera mortel. Il sera même plus que mortel. Il est le produit d'un avortement. Avortement, nous ne savons pas ce qui a pu se produire, mais nous devinons bien que dans le contexte iranien, mazdéen, c'est un avortement provoqué par l'assaut du mal, par l'agression du mal. Il tombe à terre sous la forme d'un œuf, nous dit-on, sous la forme d'un œuf mort. Il a une forme ovoïde. Donc c'est un dieu non seulement mortel, mais inachevé. Mais il est le rejeton des dieux, ce que ne sont pas les autres premiers hommes, car le pressurage de Homa passe à part là. Et ces dieux immortels qui sont nés dans les premiers temps du mélange avec le mal vont avoir avant de disparaître, avant de mourir eux-mêmes, ils auront l'excellente idée de procéder à un pressurage de Hauma, et cela leur pourvoira d'une descendance humaine, celle-là, mais c'est une descendance qui n'est pas génétique. Pas ces hommes naissent du pressurage de Hauma. C'est ce que nous raconte le Holmstrom, en quelque sorte. Il faut probablement se représenter les choses comme les naissances des déesses indiennes, pas de Savitri ou de Draupadi dans Mahabharata, n'est-ce pas, qui apparaissent tout à fait formées, dès que l'on fait l'oblation de beurre dans le feu sacrificiel. Ils apparaissent sur l'air sacrificiel lorsqu'on a pressuré l'Hauma. Mais donc cette importance accordée à Guyot Martin a un petit écho dans ce que nous rapportera beaucoup plus tard, à l'époque de l'Iran musulman, le commentateur arabe Charastani, qui nous apprend dans, on a commenté le passage de Charastani, si vous voulez vous informer plus profondément sur ce qu'il nous a dit de la religion mazdéenne, je vous renvoie à un article du journal asiatique de Marie-Jeanne Mollet, 1959, journal asiatique de 1959, c'est pas où il y a une belle analyse, car en fait le but de Charastani est de nous parler des hérésies mazdéennes. Il nous apprend qu'il y a en réalité dans le mazdéisme trois sectes. Les Zartouchtia, c'est les nôtres, la Vesta et Zartouchtia, il n'y a pas de doute, donc personne n'en a jamais douté. Ils nous disent qu'il y a les Urvaniya, c'est-à-dire ceux qui mettent au-dessus d'Ahura Mazda le temps, Survan. Ça a été une très grosse polémique interne au mazdéisme, mais je ne vais pas y entrer, car il y aurait, paraît-il, des textes qui témoignent du Urvanisme. Les temps sont au scepticisme. Après l'article de Mollet lui-même, en 61, le sujet est celui de Chaquette dans les années 70, le urbanisme n'est plus considéré avec autant de. N'est plus surestimé comme il a été à une époque de l'histoire de nos études. Mais alors, il y a une troisième secte que personne n'a jamais prise au sérieux, les Guyot Mardia, ceux qui mettent à l'origine de la religion mazdéenne, non pas Zarathoustra, mais Guyot Martin, Guyot Martin, notre personnage, notre première âme, notre premier homme. Or, effectivement, je ne veux certainement pas accorder à ce qu'écrit Charestani, je n'en ai pas la compétence d'ailleurs, une légitimité qu'il n'a peut-être pas, mais je veux seulement faire relever que moi, spécialiste de l'Avesta, j'ai dans mon texte avestique des passages qui accordent à Guyot Martin une importance beaucoup plus grande que d'autres. C'est le cas du Yashtetres, et de lui seul. Et c'est toujours dans le contexte des Fravachis, car les Fravachis, comme elles composent un pravara, comme nous disions, c'est-à-dire une continuité, temporelle, elles vont, pour la période humaine, pour la troisième période de l'humanité, elle va de Guyot Martin à Zarathoustra. Zarathoustra n'est pas écarté. Mais il y a un jalon Guyot Martin que les autres textes ne signalent pas. Nécessairement. Il ne figure pas au catalogue des sacrifiants. Il ne figure pas dans la liste des détenteurs du Kwarna. Mais il figure, et son nom est mentionné à une place de choix, il est le chaînon initial de tous ceux qui feront un choix rituel durant les années 6000 à 9000 de l'histoire du monde. Alors, autre chose de cette première liste humaine. Et ici, nous allons entrer dans le problème justement des patronymes, des ancêtres, des pères attribués à nos personnages. La liste mentionne le nom de Vishtaspa, sans lui accorder de patronyme. Or, le cas de Vishtaspa est quelque chose de très, très étrange dans l'Avesta. N'est-ce pas ? Il change de père. Zarathoustra aussi, notez-le bien. Il a changé de père. Au cours de l'histoire du mazdéisme. Les textes moyens perses lui accordent comme père un certain Lohrasp. Lohrasp. Ce qui est la forme évoluée et masculine de la déesse Druaspa, qui est titulaire du Yasht 9 d'Oaspa, la déesse aux chevaux immobiles. L'Oraspe, le père de Vishtaspa, porte ce nom-là, il est donc l'homme aux chevaux immobiles. Première chose. L'Avesta ne lui accorde pas comme père quelqu'un qui s'appelle ainsi. Le Yashta 5, dans le catalogue des sacrifiants, mentionne le nom de son père comme étant Ahurvataspa. Celui qui a des chevaux rapides. Or, ce qui est étrange avec cet adjectif, ce nom-là, c'est que la qualification comme par les chevaux rapides est extrêmement circonscrite dans l'Avesta. Cette qualité-là, elle est réservée exclusivement au soleil. Le soleil est, par essence, celui qui a des chevaux rapides. Est-ce une façon mythologique de faire de Vishtaspa le fils du soleil ? Je ne m'avance pas, je ne sais pas. Mais il y a, dans des cas comme ceci, c'est le problème des noms propres, hein, c'est la contextualisation, on peut certainement y voir une référence mythologique, une façon détournée de nous dire que l'ascendance de Vishtaspa, c'est le soleil. Mais il est possible aussi qu'une qualité comme celle-là soit une sorte de théophore, soit, et que, en fait, le père de Vishtaspa était censé avoir porté le nom du soleil. Ce soit appelé soleil, en quelque sorte, via son épithète exclusive et privilégiée. C'est des choses que nous ne pouvons pas dire, bien sûr. Alors, il y a le vieux problème. Je crois que lors d'un séminaire, quelqu'un m'avait interrogé sur cette chose. Vous savez que on m'a beaucoup critiqué à une certaine époque d'avoir écrit dans les textes vieil avestiques que Vishtaspa était, si on s'en mettait à la littéralité du texte lui-même, le fils de Zarathoustra. Bon, voici comment le problème se pose. C'est dans l'ultime gyata. On parle de Vishtaspa, avec son titre de Kavi, Kavi Vishtaspa. Puis l'on trouve le patronyme Zarathoustri, qui signifie « fils de Zarathoustra ». Puis on trouve le nom clanique de Zarathoustra, Spitamo. Et un autre personnage qui est Frashaustra. Bon, donc nous avons, entre ces deux noms qui sont explicitement mentionnés, nous avons deux adjectifs qui se réfèrent d'une manière différente à l'apparentement, le patronyme et le nom clanique. Alors, comment interpréter cela ? Ben, nous devons nous laisser guider par des détails grammaticaux. Et les détails grammaticaux, dans ce cas-ci, c'est la distribution de la particule de coordination, tcha. Or, tcha ne se distribue pas de manière arbitraire. L'usage de la particule de coordination est extrêmement réglé, n'est-ce pas ? Il y a un très beau livre qui venait de paraître, j'étais très influencé par ce livre d'un savant américain qui s'appelle Klein, et qui a fait une étude systématique dans le Rig Veda de toutes les particules. C'est un travail insensé. Et Klein a bien montré que ni dans les Vedas, ni dans l'Avesta, à n'importe quelle époque, le système des particules n'a été démantelé. On est resté fidèle de manière très stricte aux structures admises, en excluant les autres. Or, nous n'avons que deux tcha. Cela signifie, c'est une structure, n'est-ce pas, que nous ne pouvons pas avoir, en admettant que ceci, comme on le disait habituellement, soit un deuxième personnage, celui-ci de toute évidence un troisième, A et C est certain, eh bien la structure, A tcha, Seicha n'est pas possible. Elle est inusitée. On ne la trouve nulle part. Donc, je me suis laissé porter par Klein. Et j'ai simplement énoncé que la seule structure admise ici, à quoi doit répondre ce groupe, c'est que nous n'avons deux personnes. Et selon une autre règle aussi, c'est le premier mot servant à désigner une personne qui porte le tcha, nécessairement aussi. Donc, que Zarathoustri, le patronyme, fils de Zarathoustra, Spitama, le nom clanique, portait sur Vishtaspa. Bon, voilà. C'était mon argument. Devant les autres témoignages de la tradition mazdéenne, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, et c'est ce que j'avais dit lorsqu'on m'a posé la question lors du séminaire. Et Humbach m'avait fait remarquer que j'avais certainement tout à fait raison sur le plan formel, ne pouvons pas jouer avec les structures de coordination, mais que l'on peut comprendre peut-être les choses d'une autre manière, à savoir que ici le patronymique, fils d'eux, et le nom clanique, servent à désigner Vishtaspa comme le fils spirituel de Zarathoustra, comme l'adepte particulièrement proche. Nous avons des indices que ce genre d'opération est possible. Ce genre d'opération est possible, nous les trouvons d'autres indices, par exemple Vishtaspiashta de l'Avesta, ce fragment où Zarathoustra parle à Vishtaspa, il l'appelle Putra, n'est-ce pas, Putra. Bon, fils. Nous avons encore, je pense aussi, d'autres, il y a des textes, un texte moyen perse, mais là, je ne vais pas entrer dans le détail, car justement, Cherveux a relevé cela, je vous ai dit que je disposais de certaines notes inédites sur le Yashta 13 de Cherveux, et un certain nombre de témoignages moyens perses. Je m'en laisse l'exclusivité à Cherveux, bien sûr, mais cela, visiblement, inciterait Cherveux à renouer avec ma vieille hypothèse des textes vieille avestique, que selon une tradition mazdéenne, au moins, celle des Gata, n'est-ce pas, Vishtaspa serait le fils de Zarathoustra. Je ne suis pas décidé. Mais il voit une confirmation dans la première liste du Yashta 13, puisque Vishtaspa entre dans une série, n'est-ce pas, en tant que, semble-t-il, un descendant de Zarathoustra d'une manière ou d'une autre, ce que l'absence de patronymique ne nous permet pas de conclure. Donc voici une remarque que l'on peut faire sur la liste du Yashta 13. Peut-être, dans le Yashta 13, a-t-il cette particularité doctrinale, n'est-ce pas, dans l'intérieur de la tradition mazdéenne, avec les Gathas, de considérer que Vishtaspa est un membre de la famille de Zarathoustra. Je voudrais aussi faire noter que donc la deuxième liste, les fils de Sixte, bon, ici, c'est une liste, évidemment, où figurent énormément de noms qui n'ont pas d'autres traces. C'est également vrai de la troisième liste, celle des descendants de Hugu, l'homme qui a de belles vaches, hein, et qui est l'ancêtre éponyme de la famille des Hvorva, c'est-à-dire, selon une tradition aussi, parce qu'il faut, il faut ici aussi se méfier, c'est-à-dire le clan qui a donné une épouse à Vishtaspa d'une part, à Zarathoustra d'autre part, et dont les deux frères, là, explicitement désignés comme fils de Hugu dans les Gathas, sont mentionnés dans le cercle gathique, donc dans les plus anciens textes mazdéens, avec des noms d'ailleurs étrangement stylisés, puisque l'un s'appelle Frashaustra, et c'est un nom éminemment valorisant. C'est celui qui a des chameaux en parfaite santé, ses vœux, juteux littéralement, et son frère Jamaspa, pourtant lui aussi un héros tout à fait positif, Maspa, porte lui un nom déprécié, hein, comme Zarathoustra, un nom qui déprécie sa fortune, c'est-à-dire celui dont les chevaux sont brûlés par le soleil, sont déshydratés, l'homme aux chevaux déshydratés. C'est la pratique du nom dépréciatif, nous en avons beaucoup. Hein. Dans le liste, nous avons un parfait inconnu, d'ailleurs, qui n'a dans l'Avesta aucune autre mention, s'appelle Kasupitu, c'est-à-dire celui qui a peu de nourriture. Celui qui a peu de nourriture. J'attirerai pour votre attention sur deux autres faits avant que cette leçon ne finisse. Il y a d'autres listes, les listes litaniques continuent. La quatrième, qui est humaine elle aussi, c'est celle, au fond, du groupe que nous avions défini comme celle dans l'ordre chronologique, celle du catalogue des sacrifiants. Ce sont les grands sacrifiants du passé, dont le Yashta 5 dresse la liste. Nous en avons plusieurs fois fait l'étude, mais avec d'étranges déplacements chronologiques. Le héros Kursaspa, qui survient avant les Kavi et avant Zarathoustra, est déplacé après les Kavi. Et il est suivi d'un autre premier homme, du type Gayamartan, quelqu'un qui... un héros antérieur au pressurage haomique qui donnant l'essence à l'humanité. Il vient immédiatement, lui, ce Hao Xiangka, il vient immédiatement avant le Sao Xiant, Asdvatirtha. Alors, ceci aussi laisserait penser que peut-être avons-nous une tradition différente du reste de l'Avesta. Ici, je serai prudent et je formulerai une hypothèse. Je ne peux pas faire autre chose que des hypothèses, des conjectures. Au fond, nous avons, n'oublions pas que Kürsaspa a une particularité auquel d'ailleurs le Yashtres se réfère de façon très explicite. Il fait partie de ces gens, n'est-ce pas, qui, avant les pratiques rituelles de Zarathoustra, sont un peu en porte-à-faux avec la mort. Ben, les textes ne sont jamais très clairs pour nous dire vont-ils survivre dans le paradis ou pas. Alors on s'en tire par une pirouette, comme je vous disais, habituelle. Ces grands héros, ces païriots de Kaïcha, ceux qui ont connu les doctrines avant Zarathoustra et ont sacrifié, ils ne meurent pas vraiment. Ils s'endorment. C'est le cas de Kürsaspa. Aosrava, lui, il va se perdre dans la montagne et plus personne ne l'a jamais revu. Bon, leur mort est effacée. Mais Kürsaspa, c'est un dormant. Hein. Les Fravachis veillent son corps, protègent son corps, car il jouera un rôle essentiel à la fin des temps avec le Saoshiat. Il se réveillera et il sera des acteurs de la fin des temps. Alors je crois que le déplacement simplement correspond à ça. N'est-ce pas ? C'est le réveil des... Il ne figure pas à leur place sacrificielle du catalogue des sacrifiants, parce que c'est leur action de dormant réveillé qui importe. Donc, ils glissent vers la fin des temps, immédiatement immédiatement avant Asvatthurtha. Cinquième liste humaine, c'est la liste de ce que l'on a appelé, analogiquement, les saintes femmes du mazdéisme. Sainte femme du mazdéisme. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que 4 strophes. Et elle nous pose aussi certains problèmes. Je les commente brièvement. Première strophe, litanique 139. Les femmes sont mentionnées sans leur qualité sociale, madame ou mademoiselle, si vous voulez, parce que nous verrons que ça se produit, mais aussi sans patronyme. Elles sont simplement Achaouni, Achavan. Portent le même. À cela, je crois. Cette absence de référence au père ou au mari, par leur situation dans les liens conjugaux, c'est parce que ce sont des femmes sacrifiantes. Elles ont été elles-mêmes commanditaires du sacrifice. Le cas de Larvo-Vi, cette fille de Hugu, qui est considérée ici comme l'épouse de Vishtaspa, est un cas typique. Car les catalogues de sacrifiants du... C'est le catalogue du Yashtra 15, nous la présente comme organisant un sacrifice. Elle organise un sacrifice. Donc, leur qualité de commanditaire du sacrifice signifie en quelque sorte leur indépendance, leur indépendance familiale et sociale. C'est à ce titre qu'elles figurent ici. Donc, seul leur nom peut être mentionné. Strophe 140, elles sont Nairi. Elles sont Nairi. C'est-à-dire qu'elles sont des femmes mariées. Bon, leur qualité de femme mariée est explicitement mentionnée et nous n'avons pas leur nom personnel, mais mentionné au génitif le nom du mari. Le nom du mari. Strophe 141, elles sont cagnards, c'est-à-dire jeunes filles. Elles ne sont pas mariées. Et suivies de nom au génitif. Là, il y a une controverse entre les spécialistes. Cherveux voudrait que le nom mentionné au sacrifice soit leur nom personnel. Humbard pense plutôt que c'est le nom de leur père. Donc le nom personnel, selon Humbard, ne serait pas non plus mentionné, mais seulement le nom du père. C'est gênant. Je tendrai à me ranger du côté de Humbard, car il y a un cas évident où le nom ne peut pas être celui d'une femme, il est très clairement masculin, mais un seul. Les autres peuvent s'expliquer par des noms athématiques dont la flexion féminine et masculine est identique. Donc nous manquons de points de comparaison. Cherveux avait amené Cherveux à donner une très belle, ces 4 femmes, une très belle interprétation chez Cherveux, mais je ne suis pas sûr qu'elle est juste. Je crois peut-être que la beauté esthétique de son explication l'a emporté sa conviction, puisqu'il pense que ces 4 noms se réfère à 4 stades de la reproduction humaine. La première porterait dans son nom le mariage, ferait référence au mariage. La seconde fait référence au fait de devenir enceinte. Le troisième, au fait de s'asseoir pour accoucher, car les pratiques d'accoucher en position assise sont bien répertoriées par les ethnologues. Et la quatrième, au pleur du bébé. Donc ça, c'est l'interprétation de Chervieux. C'est très joli, mais je me méfie un peu. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit cela qui se trouve ici. Alors, la liste, puisqu'il s'agit de femmes, elle ne va pas, se terminera pas par Asvaturta, mais par sa mère, celle qui sera fécondée par le sperme de Zarathoustra, se baignant dans la mer, dans le lac Amun, le lac Chaishasta. Le nom de sa mère, donc, qui est, semble-t-il, avoir changé de nom, puisqu'elle s'appelle Urdat Fedri, et en devenant la mère de Asvaturta, elle change de nom et elle devient Wispa Taurvairi. C'est ce que nous explique du moins le texte. Taurvairi, c'est-à-dire celle qui surmonte tout. N'est-ce pas, par référence, bien sûr, à caractère grandiose de l'action de son fils, l'action eschatologique du Saoshiant final. Voilà, j'ai fait la description de ce que nous apprend ce passage un peu singulier de l'Avesta, sans couleur, mais plein d'enseignements, qui sont la partie litanique du Yajna de 13, et lors de la prochaine leçon, qui sera malheureusement la dernière, j'ai dû supprimer celle que je pensais devoir être la dernière, nous allons nous livrer à un petit exercice de chronologie. Je pense que nous avons abordé la question des fonctions des Fravashis. La fonction, bon, je ne sais pas si vous êtes convaincus par les explications que j'ai voulu développer, mais il nous reste maintenant à mettre tout cela en éclairage chronologique, pour ce qui concerne, bien sûr, le corpus des croyances et des doctrines mazdéennes. Où en est-on avec le concept de Fravashi dans les différentes strates de l'Avesta? Comment peut-on envisager sa formation? Quelle chronologie relative pouvons-nous envisager? Nous aborderons ce problème la fois prochaine. Alors, je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.